I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le continent africain, ce sera le plus gros bassin de consommation de la planète.
L'ours, d'un pays lointain du Nord, qui s'appelle la Russie.
Il faut d'abord savoir ce que c'est que Wagner.
Bah, c'est une bonne vieille recette qui consiste à prospérer sur le chaos.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 12 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. C'est un homme armé d'un fusil mitrailleur, souvent masqué, portant un uniforme camouflage ou kaki, sans grade ni aucun insigne d'une quelconque armée. Il est blanc et il parle russe. Voici le portrait robot du mercenaire que l'on retrouve de plus en plus aux quatre coins de l'Afrique. Il peut être un sniper aperçu aux côtés des troupes du maréchal Haftar, en Libye, ou l'un des instructeurs des rebelles qui ont tué le président Idriss Déby, au Tchad. Même allure, même accent slave chez les gardes du corps qui protègent le président centrafricain quand il sort se payer un bain de foule. D'autres miliciens du même genre ont eux été retrouvés, morts, au Mozambique, décapités par des djihadistes. Ces mercenaires aguerris et russophones n'ont officiellement aucun lien avec Moscou. Ils sont pourtant le cheval de Troie qui doit permettre le grand retour de la Russie sur le continent. Dans cet épisode, on va vous parler d'ours, de diamants et d'un compositeur classique très connu. Charlotte, tu reconnais cette musique ?
Ah, ça me dit quelque chose. La chevauchée de Valkyrie, Richard Wagner ?
Bravo, c'est gagné. Et vous, vous avez peut-être reconnu Charlotte Lalanne, spécialiste Afrique au service Monde de l'Express. La chevauchée des Valkyries, donc. Cette air célèbre résonnait lundi 20 septembre dernier dans le lobby d'un hôtel international de Bamako, la capitale du Mali. Et ça, Charlotte, ça pouvait ressembler à une provocation.
Alors oui, peut-être que le réceptionniste a voulu ce jour-là jouer un petit tour à la délégation française qui était en visite à Bamako, délégation emmenée par la ministre française des armées, Florence Parly, qui a débarqué à Bamako en catastrophe pour tenter de dissuader le pouvoir en place de faire affaire avec des mercenaires russes connus sous le nom, je vous le donne en mille, du groupe Wagner.
D'accord, on en revient à notre ère de la chevauchée Valkyrie.
Voilà, le fameux. Et alors, juste pour remettre un petit peu en contexte la situation au Mali et au Sahel, on a une force antiterroriste française qui est présente depuis maintenant 8 ans qui s'appelle l'opération Barkhane, 5100 hommes sur le territoire du Sahel et qui doit se redéployer à l'horizon 2023 pour diviser par deux ses effectifs. Et le pouvoir en place malien en profite donc pour dire qu'il va aller voir ailleurs.
La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires.
Ça, c'était le Premier ministre malien Choguel Maïga le mois dernier à la tribune de l'ONU. La réponse du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a, elle, été très claire.
Si d'aventure, le colonel Goïta, président par intérim du Mali, avait l'intention de recruter la société Wagner, évidemment, c'est incompatible avec la présence internationale au Mali. Il faut d'abord savoir ce que c'est que Wagner.
Pour savoir de quoi on parle, comme le préconise Jean-Yves Le Drian, on a fait venir un chercheur qui connaît tout de Wagner, et non, il n'est pas musicologue. Emmanuel Dreyfus, vous êtes expert de la Russie à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce qu'il existe une société Wagner, pour reprendre les termes de Jean-Yves Le Drian ?
Il existe un groupe informel qui s'appelle Wagner. Je dis informel parce que c'est un groupe qui n'a aucune existence légale. C'est pas une entité commerciale qui serait enregistrée en Russie dans les registres du commerce. Et donc du coup, parler d'entité semble pertinent pour décrire ce phénomène qui est apparu il y a quelques années maintenant, en fait dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, à partir de 2015-2016, et de manière plus convaincante, plus flagrante en tout cas, en Syrie à partir de 2016-2017.
Alors c'est quoi cette entité Wagner? Qu'est-ce qu'on met dedans?
C'est un groupe de mercenaires proches du pouvoir russe, dans le sens où il est sous le contrôle d'un homme dont le nom défraie de plus en plus la chronique depuis quelques années maintenant, Yevgeny Prigogine. Donc un groupe de mercenaires qui est envoyé dans des zones dans lesquelles la Russie entend défendre ou renforcer son influence. Mmh. Depuis que le groupe a été créé, il y a au moins plusieurs milliers de personnes qui sont passées par Wagner. Hein, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entre elles ont été formées dans une base qui appartient aux forces armées russes et qui est située dans la région de Krasnodar. Donc on voit quand même qu'il y a des collusions extrêmement fortes entre les forces armées russes et le groupe Wagner.
Avant de revenir sur Evgeny Prigogine, d'où vient ce nom Wagner si ce n'est pas un nom enregistré d'une société?
Alors, il y a un colonel, le colonel Oudkin, qui est l'un des commandants de Wagner et qui, semble-t-il, est un grand fan, si je puis dire, du célèbre compositeur.
À la tête de cette entité Wagner, il y a un homme, Evgeny Prigogine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est cet homme?
Yevgeny Prigogine, donc c'est un homme proche du Kremlin qui a fait fortune dans les services de restauration rapide en fait dans les années 90 et qui s'est peu à peu rapproché des cercles proches en fait de Vladimir Poutine. Il est surnommé le cuisinier parce que effectivement, il est passé du commerce de hot-dog dans la rue au début des années 90 à Saint-Pétersbourg à celui de cuisinier en chef, si je puis dire, du Kremlin. C'est lui qui assure les services de catering au Kremlin, en quelque sorte. Il correspond à ce qu'on appelle la figure d'un entrepreneur politique. En fait, des hommes d'affaires qui mettent au service des intérêts du Kremlin leur fortune, leur réseau d'affaires. Il est connu pour avoir fondé, ou du moins pour diriger, l'Internet Research Agency, qui est une entité apparemment, enfin responsable en tout cas selon les services américains, de l'ingérence électorale russe dans les élections américaines en 2016.
Prigogine, s'il m'entend là, au-delà de cette salle, qu'il sache qu'on le connaît bien. Voilà.
Vous l'avez dit, Prigogine, c'est un proche de Vladimir Poutine. Est-ce que le lien entre Prigogine, ses mercenaires et le Kremlin est prouvé?
Oui, il a été établi par un certain nombre d'enquêtes menées par des journalistes d'investigation extrêmement réputés, qui soient russes. Hein, je pense aux enquêtes du journal Novaya Gazeta, du journal Fontanka. Donc oui, les liens entre Prigogine d'une part, le groupe Wagner d'autre part, et tout un tas de sociétés minières russes qu'on a vu active au Soudan, en Centrafrique, et qui semble désormais s'intéresser au Mali. Oui, le lien semble assez avéré.
Quel est l'intérêt pour Vladimir Poutine d'avoir un Yevgeny Prigogine avec ses mercenaires pour intervenir dans différents endroits du monde, comme la Syrie ou l'Afrique?
Alors, c'est un terme en anglais, hein, plausible deniability, en fait, et c'est pouvoir être présent de facto sur un terrain, tout en disant non, on n'est pas là. Et ça, par exemple, c'est un cas d'utilisation de Wagner qu'on a vu en Libye, où à plusieurs reprises, les combattants de Wagner sont venus en aide au maréchal Haftar, donc l'homme fort de l'Est libyen. Et ça permettait à Vladimir Poutine de dire, ben non, on n'a pas d'homme sur le terrain, on n'est pas là.
C'est pas nous.
Voilà.
Merci beaucoup Emmanuel Dreyfus.
Je vous en prie.
On a mieux compris désormais ce que représente cette entité Wagner. Vous allez voir maintenant que c'est aussi une tête de pont. Une fois entrés dans le pays, les Russes y étendent leur influence et dans leur arsenal, on trouve même des dessins animés. Je vous raconte une histoire d'ours et de hyènes d'ici 30 petites secondes.
Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe? Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, l'Enyaq iV. Surtout que pour les propriétaires de l'Enyaq iV, il y a plein d'avantages. Une offre pro Skoda dédiée aux TPE-PME avec maintenance. Véhicules de remplacement et pertes financières incluses. Pas de taxes sur les véhicules de société, l'exonération de carte grise et surtout un bonus gouvernemental. Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr.
Dans un pays chaud, dans le centre de l'Afrique. Des animaux laborieux cultivaient des colonies.
L'animation n'est pas très élaborée, mais la fable est plutôt facile à comprendre. Nous sommes en Centrafrique, dans une ferme où l'éléphant, à force de travail, fait grossir sa récolte.
L'éléphant assidu qui avait la plus grande récolte.
Hélas, il aiguise l'appétit des hyènes.
Ils ont attaqué la ferme pour saisir les récoltes.
L'éléphant reçoit le renfort du lion, mais le roi des animaux lui-même est vite submergé.
Les hyènes étaient trop nombreuses.
Alors le lion a rugi quand il était au bout de ses forces.
La situation semble désespérée, mais un autre animal entend l'appel du lion.
L'ours, d'un pays lointain du nord, qui s'appelle la Russie, et s'est rendu sur les lieux et pour son ami.
Je vous passe les détails, mais évidemment, l'ours aide ses amis, l'éléphant et le lion, à chasser les hyènes, et tout est bien qui finit bien.
Dans cette petite fable, l'éléphant, c'est la population centrafricaine. Le lion, ce sont les forces armées centrafricaines, les FACA. L'ours, c'est évidemment la Russie qui vient aider donc son ancienne amie à l'époque soviétique. Et puis les hyènes, ce sont en fait les Américains et surtout les Français.
Je vous présente Maxime Audinet, chercheur spécialiste des stratégies d'influence et de la Russie. Alors lui aussi à l'IRSEM. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié une étude en juillet dernier sur les méthodes d'influence russes en Afrique francophone. Et c'est en la lisant qu'on a trouvé ce mini-film d'animation au message pas très subtil. Maxime Audinet, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce dessin animé?
Alors, c'est en fait un dessin animé qui est apparu sur YouTube initialement et qui a été aussi projeté en fait dans des festivals à Bangui, la capitale de la Centrafrique, devant un public surtout enfantin. Alors, vous aurez peut-être remarqué que dans la vidéo, la fable est racontée par une voix enfantine avec un accent slave. Et à la fin, on voit que ce nom apparaît produit par Lobay Invest. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Lobay Invest, c'est une société d'extraction minière qui est présente en Centrafrique et qui a obtenu un permis d'extraction de la part du gouvernement centrafricain.
Donc là, j'avoue qu'on a du mal à faire le lien entre une société minière et un dessin animé.
Alors, Lobay Invest, c'est une compagnie qui appartient au réseau de cet homme d'affaires qui est Yevgeny Prigogine.
Ah, on retombe sur Yevgeny Prigogine, le parrain du groupe Wagner dont nous parlait votre collègue chercheur Emmanuel Dreyfus.
Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, en plus, Lobay Invest a fait partie des entités qui ont été sanctionnées par le Trésor américain parce qu'elle fait partie de ce réseau Prigogine. C'est aussi d'une certaine manière un faux-nez de Wagner parce que y a tout un modèle économique qui s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'en fait, Lobay Invest fait de l'extraction minière. Essentiellement, c'est de l'or et du diamant, par exemple. Mmh. Et évidemment, le groupe Wagner sécurise également les sites d'extraction. Et ce qui se passe, c'est que si l'extraction sert à financer en retour le groupe Wagner. Donc voilà, le système s'auto-alimente.
Et à financer les outils de propagande.
Et à financer du coup indirectement tous ces outils influence, puisqu'en fait, c'est un réseau très large, qui est d'ailleurs un réseau privé, puisque Prigogine est un homme d'affaires, c'est pas un homme politique, c'est pas un membre du ministère des Affaires étrangères, mais qui sert du coup effectivement indirectement le pouvoir russe et l'agenda de politique étrangère officielle de la Russie. Et ce qu'a fait par exemple Lobay Invest en Centrafrique, ça a été de financer en fait une radio qui s'appelle Radio Lengo Songo. Et depuis, elle diffuse un discours qui vise à la fois à légitimer la présence de la Russie et notamment de ce qu'on appelle les instructeurs russes, qui sont en fait les mercenaires de Wagner. Il y a à peu près entre 2 et 3 000 mercenaires de Wagner qui s'entraînent à Berengo, qui était l'ancienne résidence du président Bokassa. Et puis, ce qu'on observe depuis à peu près 6 mois maintenant, c'est une montée très forte de contenu très hostile à la présence française, surtout sous toutes ses formes, que ce soit la présence militaire, la présence médiatique. RFI est un média qui est très attaqué sur cette radio. Ça sert à soutenir, en fait, la volonté de la Russie de s'implanter plus durablement en Afrique, de manifester, en fait, son retour.
Via la radio, le dessin animé, toute cette propagande, on fait comprendre à la population centrafricaine que la présence russe est utile. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des résultats de Wagner, c'est-à-dire que de fait, la rébellion a été repoussée. En revanche, il faut s'interroger sur les modalités. Et c'est là qu'il y a eu, et RFI a particulièrement documenté ces aspects-là, l'ONU aussi est revenu dessus, il y a eu des exactions qui ont été commises par le groupe Wagner, qui continuent d'ailleurs à être commises vraisemblablement en Centrafrique, notamment au moment où il y a eu cette contre-offensive au mois de janvier-février 2021 contre justement les rebelles. Et c'est là qu'intervient d'ailleurs un autre élément qui est ce film touriste qui, semble-t-il, aussi a été produit par des entités liées à Prigogine. Et dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une vision très sélective de ce que fait Wagner. Sauver la population, aider les FACA, sauver la Centrafrique. Mais évidemment, tous les aspects les plus négatifs ne sont pas montrés.
Projeté en Sango, la langue nationale, dans le plus grand stade de la capitale, le 20 000 places, le film fait sensation.
Et ce qui s'est passé au moment où, en province, Les exactions ont commencé à être documentées. Il y a eu une montée d'un sentiment en fait assez hostile vis-à-vis de Wagner et plus largement de la présence russe. Le groupe Wagner et plusieurs acteurs sont partis en province à la suite des combats et ont repris des techniques de propagande en fait assez classiques, assez anciennes qu'on a pu par exemple observer pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui consistait à aller à la fois distribuer par exemple des sacs de riz, des sacs de sucre avec la photo de Prigogine sur le sac, et puis diffuser dans des écoles ou des salles communales, à diffuser le film touriste avec projecteur pour finalement montrer les meilleurs aspects de Wagner et évidemment dissimuler les mauvais côtés. Tout ça avec l'assentiment évidemment du gouvernement et du président Touadéra à Bangui.
Merci Maxime Audinet de nous avoir décrit toutes ces recettes appliquées dans le laboratoire centrafricain et qui pourraient bientôt être répliquées au Mali. La Russie est de retour en Afrique, oui, mais pour quoi faire exactement ?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me tourne à nouveau vers toi, Charlotte. La Centrafrique est un pays en état de guerre quasi permanente. Le Mali est dirigé par des putschistes et menacé par des djihadistes. On peut se demander ce que la Russie vient faire dans ces pays très instables.
C'est une bonne vieille recette qui consiste à prospérer sur le chaos. En l'occurrence, choisir des pays, tu l'as dit, en guerre, de préférence des ex-colonies françaises où la France est de plus en plus critiquée. Et donc de proposer ses services, en rappelant au passage la vieille amitié entre la Russie et l'Afrique, puisque l'URSS, après les indépendances, a été un allié que beaucoup de pays du continent ont choisi pour s'affranchir de la tutelle occidentale. Donc finalement, il y a cette légitimité, ces liens qui sont anciens, et pour la Russie, c'est tout bénef, parce que envoyer quelques centaines de mercenaires, finalement, ça coûte pas très cher, d'autant que Moscou n'a même pas en assumé les éventuels dégâts. Et donc, une petite mise, un gain maximum, puisque en France, on l'a entendu, et plus largement d'ailleurs en Europe, l'arrivée de ces mercenaires crée la panique, et elle montre surtout que sur le continent, il y a de la concurrence.
Oui, on a bien entendu l'énervement français vis-à-vis du Mali. Ça fait partie du petit jeu géopolitique russe. Mais est-ce qu'il y a aussi une stratégie économique de Moscou ?
Oui, elle consiste en fait à se servir de ces pays en guerre, la Centrafrique, le Mali, comme des marches ou des portes d'entrée vers d'autres pays plus riches, là où potentiellement la Russie pourrait trouver des marchés. L'Angola, le Nigeria, quand même, le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Selon les projections, ce sera le troisième pays le plus peuplé du monde dans 30 ans. Donc voilà, il faut bien voir que dans très peu de temps, le continent africain, ce sera le plus gros bassin de consommation de la planète, avec une classe moyenne qui émerge, et donc des opportunités de business. Et ça, la Russie l'a bien compris, d'autant qu'elle a absolument besoin de diversifier son économie, qui est encore très très dépendante des hydrocarbures.
Et alors, est-ce que ça porte ses fruits ?
Alors, d'un point de vue économique, pour l'instant, c'est pas extraordinaire. Il faut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, à commencer par le géant chinois, et c'est pas facile de rivaliser avec la Chine. Les deux pays, d'ailleurs, se battent pas tout à fait sur les mêmes terrains pour le moment. Le dada des Russes, c'est la coopération militaire, on en a parlé, et en particulier la vente d'armes. Sur la période 2014-2019, la Russie, par exemple, est devenue le principal fournisseur d'armes de l'Afrique, d'après le Stockholm International Peace Research Institute. C'est un observatoire international reconnu sur le marché de l'armement. La Russie, donc, qui fournit quasiment la moitié des équipements vendus aux pays africains. Et depuis 2014, une vingtaine d'accords de coopération et de défense ont été signés avec des pays d'Afrique subsaharienne. Et tout cela s'inscrit dans une reconquête plus large du continent, symbolisée en 2019 par le premier sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Sochi, et un second qui devrait être organisé tout prochainement en 2022.
Donc la diversification de l'économie russe, ça passe pour l'instant par la vente d'armes. Est-ce que les pays où la Russie vient s'implanter y trouvent eux aussi leur intérêt ?
En Centrafrique, c'est ce que le président affirme, que ces instructeurs russes ont permis de repousser les rebelles, notamment une offensive qui menaçait la capitale Bangui en 2020. Mais il y a quand même une grande question, c'est à quel compris cette présence. On parlait tout à l'heure des exactions terribles qui sont attribuées à ces mercenaires. C'est pas rien, hein. On parle d'exécutions, de tortures, de viols commis par ces combattants russes. Et puis, au-delà de ça, militairement, ces hommes ont aussi largement montré leurs limites. Par exemple, au Mozambique, où le gouvernement a fait appel à eux en 2019 pour repousser une offensive djihadiste, et ben, ça a été la bérésina, à tel point que finalement l'État a congédié les Russes et a préféré faire appel à une société privée, cette fois sud-africaine. Donc militairement, il n'y a pas de miracle Wagner. Et puis, au-delà de ça, une question se pose sur l'influence russe, jusqu'où Moscou est-il prêt à aller, notamment en matière d'aide aussi au développement. On sait que la France et l'Europe sont des gros fournisseurs d'aide au développement dans un certain nombre de pays, même si bon, les résultats ne sont pas forcément géniaux. Mais si le Mali confirmait ce deal avec Wagner, il risque de couper les ponts avec la France, avec ses partenaires européens. Et ça, c'est un risque. C'est ce qui s'est passé en Centrafrique pour la France. Et on voit aujourd'hui le président centrafricain Touadéra en revenir tout doucement, tenter de renouer avec la France en cherchant à nommer un nouvel ambassadeur, par exemple.
L'Afrique, continent de toutes les convoitises, ça promet d'autres épisodes de La Loupe. Merci Charlotte.
À bientôt.
Charlotte Lalanne, tous tes articles sur l'Afrique sont à lire sur le site de L'Express. Si cet épisode vous a intéressé, dites-le nous avec des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict par exemple. Et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Celui-là a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
I'm Andrea, founder of a boutique handbag brand, Andy, and this is why I switched to Shopify. I tried three other platforms prior to Shopify, and I remember my breaking point was when I would try to make one little change and my entire site would go down. Shopify made it really easy for me to shift everything over and hit the ground running. I was able to migrate my products and all of my customer information over.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/listen. Go to shopify.com/listen to take your business to the next level today.